Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Cette année, la radio en France fête ses 100 ans. Et pour la première édition de la fête de la radio, j'ai voulu rendre hommage à l'un des membres fondateurs de la grande famille Europe 1, Pierre Bellemare, qui a raconté ici, sur cette antenne, des milliers et des milliers d'histoires, 6000 au total. Son histoire, je l'ai tirée de son autobiographie, Ma vie au fil des jours, parue chez Flammarion. Et pour le débrief, j'ai demandé à Jérôme Ecker d'être là, qui a travaillé avec lui pendant 40 ans. Bonjour Jérôme Ecker.
Bonjour.
C'est d'ailleurs avec vous qu'il a écrit ce livre, Ma vie au fil des jours. C'est une histoire écrite avec Nicolas Loupien. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Pierre Bellemare vient d'une époque qui appartient à l'histoire, avec un grand H. Rendez-vous compte, il naît en octobre 1929, trois jours avant le fameux jeudi noir, le krach boursier de Wall Street. Et en 1937, il a 8 ans, il visite l'exposition universelle de Paris avec son papa. Et il garde un souvenir ému du planétarium du Palais de la Découverte. Et donc il a connu la guerre. Pierre avait 10 ans quand elle a éclaté. Et vous savez comment le petit Pierre apprend que la guerre est déclarée ? Il est en vacances dans le Massif Central avec ses parents et il a déjà une passion pour la radio. Alors il a dégoté un poste à galène pour capter les nouvelles et dérouler une antenne qui fait au moins 50 mètres. 50 mètres de fil accrochés au volet de sa chambre. Et c'est comme ça qu'il apprend la nouvelle.
Français et Français, nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposé. Sur le sol de France, sur cette terre de liberté, où le respect de la dignité humaine trouve un de ses derniers refuges, vous associerez tous vos efforts pour le salut de la patrie. Vive la France!
Pendant la guerre, figurez-vous, le petit Pierre est scout. Ce qui, entre nous, revient à flirter avec la résistance. C'est absolument interdit. En zone occupée, les Allemands ont banni le scoutisme. Parce que le scoutisme, c'est Lord Baden-Powell. Le scoutisme, c'est anglais. Donc c'est mal. Peu importe. À l'âge de 12 ans, en 1941, le jeune Bellemare intègre clandestinement les scouts de sa paroisse. La paroisse Saint-Dominique. Ça se passe une nuit, dans une clairière. On appelle son nom.
Pierre Bellemare.
Et là, le petit Pierre s'avance et il prête serment.
Avec l'aide de Dieu et de mon équipage, je promets de faire tout mon possible pour devenir un citoyen actif, rendre service, développer mes talents et vivre selon les lois des scouts et guides du monde entier.
Mais notez qu'il refuse d'être totémisé. Il ne veut pas qu'on l'affuble d'un petit nom, genre écureuil astucieux ou tigre lascif. Il trouve ça ridicule. Et ensuite, pendant une bonne partie de la guerre, Pierre participe à des camps scouts, toujours en se cachant. Les camps ont lieu la plupart du temps en Sologne, dans les réserves de chasse de gros propriétaires terriens, bien cachés du regard des Allemands. Pierre et ses camarades y vont en train en dissimulant leur uniforme au fond du sac. Mais en pleine guerre, les scouts ont une autre fonction. Ils doivent porter secours aux victimes des bombardements. Un jour, par exemple, un raid anglais détruit une usine Porte de la Chapelle à Paris. Pierre et ses camarades foncent sur place. Les adultes dégagent les cadavres et eux, ils fouillent les gravats à la recherche des survivants. Au printemps 1944, voilà notre Pierre chef de la patrouille des coqs. Il a 15 ans. Et un jour, il a la bonne idée de faire passer un test d'orientation à un jeune scout en le faisant monter sur le toit de son immeuble.
Alors, indique-moi où se trouve la Bastille.
Et à ce moment-là, dans la rue, quelques étages plus bas, 5 ou 6 personnes se mettent à crier.
Là-haut ! Regardez là ! Des terroristes sur le toit !
Des terroristes. C'est comme ça, à l'époque, que les collabos appellent les résistants. Et donc les gens d'en bas, bons collabos, vont prévenir les autorités. Et une demi-heure plus tard, la Gestapo.
Descendez ! Tout le monde en bas !
Tout l'immeuble se retrouve dans la rue. Et là, Pierre est blotti derrière son père et il se dit, il a 14 ans, hein. Ils vont m'arrêter. Ils vont me jeter en prison. Ils vont m'exécuter d'une balle dans la tête. Il est terrorisé. Les deux gestapistes font venir ceux qui l'ont dénoncé. Ils détaillent Pierre de la tête aux pieds, ils ne le reconnaissent pas. Ouf ! N'empêche qu'en remontant, le père lui en colle une bonne. La première et la dernière gifle de toute sa vie. Pendant la guerre, le jeune Pierre Bellemare participe aussi à ses premières surprises parties. Avant le couvre-feu, bien sûr, le samedi après-midi, entre 2h et 6h. Un copain apporte une bouteille de rhum, on tourne la manivelle du phonographe et on écoute Red Aclair.
Bonjour mes très chers amis, nous voici tous réunis.
Et Pierre Bellemare, 14 ans, roule sa première galoche et pas sa dernière, vous verrez, à une prénommée Jeannine. Et puis vient la libération. Et en août 1944, Pierre a 15 ans, il va s'asseoir sur le socle du Lion de Belfort, place d'Enfer Rochereau, et il voit arriver la deuxième DB du général Leclerc. Et puis un jour, en 1945, au cinéma à Montparnasse, il apprend par les actualités l'existence du camp de concentration de Dachau que les Américains viennent juste de libérer. Et un mois plus tard, il est réquisitionné avec les scouts pour accueillir les déportés à l'hôtel Lutetia.
Vous ne pouvez pas savoir, c'est quelque chose d'absolument inimaginable dans mes souvenirs. Parce que vous voyez arriver des gens qui étaient allongés sur des civières et vous voyez arriver des morts. C'est-à-dire qu'ils sont tellement décharnés. Les yeux sont quasiment sortent des orbites. La peau est collée aux os du visage, aux os du corps, évidemment. Bon, ce sont des squelettes avec un peu de peau dessus. C'est effrayant, effrayant. Ils sont presque incapables de dire un mot. Ils arrivent, on les prend, donc on les amène à l'intérieur de cet hôtel où là, on allait leur donner les premiers secours à leur arrivée. Ils avaient déjà connu des secours à leur départ, ils en connaissaient à leur arrivée. Et voilà, on faisait ça toute la journée, et on empêchait les gens de leur donner de la nourriture. Ils disaient, non, surtout pas, faut surtout pas qu'ils aient de la nourriture. Non, ça les tuerait, parce qu'il fallait pas leur donner du pain, du miel, des confitures, c'est une stupidité. Donc on repoussait les gens qui voulaient nous aider, plein de bonne volonté, en donnant du ravitaillement, c'était pas possible. Et j'étais dans un état second.
À la toute fin de la guerre, sa sœur Jacqueline tombe amoureuse d'un certain Pierre Yégel, qui à l'époque présente une émission de radio à la Radiodiffusion Française. Une émission de musique classique et de poésie. Le monsieur est très populaire. Il est le premier, figurez-vous, à dire « je » à la radio. C'est-à-dire à parler de lui, à partir de son point de vue. Et pour vous dire à quel point il est fan de musique, il a 40 000 galettes 78 tours à la maison. C'est aussi lui qui vient de lancer une petite blonde qui s'appelle Lynn Renault. Bref, c'est quelqu'un d'important, le beau-frère, dans le Paris vibrionnant de l'après-guerre. Et à côté de ça, Pierre, lui, n'a pas forcé sur les études. Hein. On l'a collé dans une boîte à bachot, ça n'a servi à rien. En juin 1947, il échoue aux épreuves du baccalauréat. Il a 17 ans et demi, zéro diplôme, mais un beau-frère. Un beau-frère qui, un jour, évidemment, le pistonne pour entrer à Radio Service, une petite maison de production qui réalise des programmes pour Radio Luxembourg. Et un an plus tard, le même beau-frère le fait entrer à la Radiodiffusion Française, la radio d'État, comme technicien auxiliaire, tout en bas de l'échelle. Il n'a que 18 ans en même temps. Son travail consiste à enregistrer les reportages des correspondants à l'étranger. Ils appellent au téléphone et lui, il enregistre leurs textes. Et au début, c'est sur des disques, des 78 tours, figurez-vous. Il grave des disques, sachant qu'un disque ne dure que 3 minutes. Cela dit, à peu près à cette époque-là, Pierre voit arriver le premier magnétophone à bande. Sacré progrès, car la bande dure 20 minutes. Et on peut la monter en la découpant au ciseau, en la recollant après avec du scotch. Donc vous l'avez noté, pour l'instant, le jeune Bellemare est de l'autre côté de la vitre. pas celui où il y a le micro. Alors quand est-ce qu'il traverse? Eh bien d'abord, il part faire son service militaire à Trèves, en Allemagne, au 7e régiment des chasseurs d'Afrique. C'est un régiment de tanks, et d'ailleurs Pierre y apprend à piloter un tank. Et ensuite il fait un peu de télévision, comme présentateur dans un jeu, Télématch. Mais ça n'assure pas du tout sa célébrité, puisque très peu de gens ont la télé, quelques milliers. Non, ce qui va asseoir sa popularité, c'est son arrivée à Europe numéro 1 en 1955. La radio est en train de se créer sous la houlette de Louis Merlin. Alors il fait venir Bellemare et son copain Jacques-Antoine.
Bien. Alors les garçons, trouvez-moi une idée.
C'est Jacques-Antoine qui prend la parole. Son idée est assez folle-dingue.
Eh bien, imaginez. Hein, on tend un câble place Vendôme, à 30 mètres au-dessus du sol. Et puis on fait venir un funambule. Et là, l'animateur dit aux auditeurs quelque chose comme « Le funambule n'est pas très aguerri, s'il tombe, il se tuera. » Et donc il demande aux auditeurs de porter des matelas pour amortir la chute. Eh ben moi je te parie qu'une demi-heure plus tard, la place Vendôme sera couverte de matelas. C'est pas une bonne idée ça?
Ouais, c'est bien.
Mais au lieu de mobiliser les gens pour un jeu, si on les mobilisait pour une cause, une noble cause, moi j'aimerais bien qu'Europe numéro 1 joue un rôle social, tu vois?
Il est donc convenu que l'émission s'appellera « Vous êtes formidable ». Et c'est bien Pierre Bellemare qui la présentera. Jacques-Antoine, lui, la fabriquera. Avec une petite invention, un truc qui ne s'est jamais fait à la radio. Les auditeurs vont pouvoir appeler au téléphone et participer à l'émission en direct. C'est incroyable, les autres n'ont jamais fait ça. Il a fallu convaincre le patron.
Ah bon? Des auditeurs? Et si vous avez affaire à un fou qui raconte n'importe quoi, hein, vous ferez comment? Et puis s'il vous insulte? Eh bien, j'essaierai de gérer la situation.
Louis Merlin n'est pas chaud, mais il accepte. La première émission de Vous êtes formidable a lieu le 5 avril 1955. Europe numéro 1 n'existe que depuis 2 jours.
Formidable, vous êtes formidable.
Alors en quoi consiste cette émission? Vous êtes formidable. Eh bien, elle est révolutionnaire, parce qu'elle met les auditeurs à contribution. Et ce faisant, elle donne un sacré coup de vieux à la RTF, et même à Radio Luxembourg. Un jour, par exemple, Bellemare dit
« Comme vous l'avez constaté, mes chers amis, le soir à l'heure du dîner, des dizaines de gamins déambulent dans les rues de Paris, avec des journaux sous le bras. Ils n'iront se mettre à table chez leurs parents que quand ils auront vendu la totalité de leur stock. »
Et là, ils retrouvent en direct 2 envoyés spéciaux, Roger Couder et Jean-Paul Roulant, qui sont campés à des carrefours dans Paris. Et avec leur micro, en direct, ils font témoigner les petits marchands de journaux, avec leur accent de gavroche. Et la vie, soudain, déboule dans le poste de radio, la vraie vie, alors que les radios de l'après-guerre étaient très compassées. Et là, Bellemare enchaîne.
Alors voilà, chers auditeurs, je vous demande de sortir de chez vous, de quitter pendant quelques minutes la chaleur de votre foyer et d'acheter un journal au premier de ces gamins que vous rencontrez. Si quelques milliers d'entre vous accomplissent le même geste au même moment, alors tous ces gosses pourront rentrer chez eux.
Eh bien, une demi-heure, vous entendez une demi-heure plus tard, il n'y a plus aucun journal à vendre au coin de la rue, à Paris. Et la carrière de Pierre Bellemare est lancée. Mais il y a quelqu'un dont je ne vous ai pas encore parlé. Sa femme. Enfin, ses femmes. Sa première femme, Micheline. Pierre la rencontre très jeune, 17 ans et demi, dans la boîte à bachot où ses parents l'ont inscrit dans l'espoir de lui faire passer son bac, qu'il n'aura pas. Pendant un trimestre, il la regarde de loin. Trop timide. ce qui l'oblige à passer à l'action, c'est l'arrivée dans la classe, en cours d'année, d'un beau gosse de 17 ans qui débarque avec un blouson d'aviateur sur le dos. Et pour cause, il a été le plus jeune pilote de l'US Air Force pendant la guerre. Les filles bavent devant lui. Et lui, eh bien, il a repéré Micheline. D'entrée, Pierre est sur le point de se la faire chipper. Alors il est obligé de sortir du bois. Il l'emmène se promener dans les jardins du Luxembourg, il lui prend la main et ensuite il va la peloter au cinéma. Et l'été suivant, vient le temps des présentations à la belle famille. Et là, badaboum, un garçon qui n'a même pas le bac, épousez ma fille. La mère de Micheline l'envoie bouler.
Ma fille, jeune homme, n'est absolument pas pour vous. Mais enfin, j'ai pas mon baccalauréat, certes, mais je vais avoir un travail à la RTF. N'insistez pas, jeune homme. Ma décision est prise. Eh bien, puisque c'est comme ça, on attendra d'être majeur, Micheline et moi. Et puis on se mariera, avec ou sans votre consentement. Hors de chez moi, jeune homme. Je ne vais plus jamais vous voir. Vous n'épouserez jamais ma fille. Vous êtes répugnant.
Là-dessus, le jeune Belmar part faire son service militaire en Allemagne. Et 5 mois plus tard, il reçoit une lettre du père de Micheline. Micheline est en dépression. Elle vit enfermée dans sa chambre. « Ma femme a eu tort. Je vous en supplie, écrivez-lui. » Et voilà comment Pierre épouse finalement Micheline en avril 1951, à l'âge de 22 ans. Et ils ont une fille, Françoise. Et puis un garçon, Pierre. Seulement voilà, le métier de présentateur à la radio et à la télé est plein de tentations, plein de créatures. Et quelques années plus tard, en 1959, Pierre Belmar croise la route d'une jeune danseuse de 18 ans, Roselyne Braqui. Il lui dit la vérité, hein. Il est marié, il a 2 enfants.
« Je ne peux strictement rien vous promettre, mademoiselle. »
Il l'embauche néanmoins comme assistante, il lui loue un studio à Neuilly et il commence une double vie. Avec des états d'âme, hein, tout de même, il l'écrit dans son livre. « Je traversais des périodes de doute et d'irritabilité. Devais-je essayer de sauver mon couple et ma famille pendant qu'il était encore temps? Ou foncer tête baissée dans ce nouvel amour? Je repoussais à plus tard la décision. Et donc, en attendant, il mène les 2 vies de front. Quelques week-ends et escapades avec Roselyne, et le reste du temps avec Micheline et les enfants. Et puis en avril 1961, la tuile. Roselyne assiste à un match de hockey sur glace. Une bagarre éclate au balcon au-dessus d'elle. Et l'un des bagarreurs bascule par-dessus la rambarde et tombe sur Roselyne, qui se retrouve avec le dos broyé et un pronostic vital engagé. Pendant des mois, aidez-moi, Pierre va la voir à l'hôpital. Et leur relation, du coup, se renforce. Mais Pierre n'a toujours pas choisi. Même quand, en décembre 70, Roselyne accouche d'une petite fille, Maria Pia, dont il est le père. Il lui faut trouver un nouvel appartement, plus grand, pour sa 2e famille. Et pendant 2 ans encore, il poursuit sa double vie. 2 familles, 2 logements et 2 enfants des 2 côtés. Pierre est rongé par la culpabilité, mais incapable de prendre une décision. Ça dure jusqu'à un matin de janvier 1972. Il est en train de prendre son petit déjeuner avec Micheline, qui n'a rien vu venir, hein, qui le croit fidèle. Et il lui déballe tout d'un coup.
C'est-à-dire que... Micheline, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années et nous avons une petite fille. Je suis désolé.
Micheline tombe de l'armoire.
Oh, mais tu fais tes valises et tu pars!
Pierre fait 2 valises, il met dedans ses costumes et ses 50 cravates et il débarque avenue de Breteuil dans son autre appartement pour une nouvelle vie. Il divorce avec Micheline, assez tort bien entendu, et en 1976, il épouse discrètement Roselyne. Mais le soir même, à une réception d'Europe 1, il se laisse photographier par les paparazzi avec Roselyne, pour la première fois. Pour apitoyer l'auditeur et le mobiliser, Pierre Bellemare racontait toujours une petite histoire, en s'impliquant beaucoup, avec du lyrisme, de la verve, qui d'ailleurs entre nous lui valait quelques moqueries. Hein. Les mauvaises langues de la presse l'appelaient Saint Bellemare ou le Saint-Louis des ondes. On le traitait de battleur, mais peu importe, puisque les gens adoraient. Quoi qu'il en soit, c'est de là que vient l'idée de raconter des histoires sur Europe numéro 1. Tous les jours, entre 13h30 et 14h. Une histoire par jour, 350 histoires par an. Avec derrière une dizaine d'auteurs qui épluchent la presse française et internationale à la recherche de faits divers. Et écrivent les histoires, que Pierre enregistre ensuite au fur et à mesure. Et voilà comment, en 1972, naissent sur Europe numéro 1 les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare.
13h32, les dossiers extraordinaires. Pierre Bellemare, bien sûr.
Dans une capitale européenne, vers 19h30, un jour de semaine, un commissariat de quartier. La radio d'une voiture de police secours signale qu'un homme vient de s'écraser au pied d'un immeuble du quartier. La présence du commissaire est souhaitée car il ne semble pas qu'il s'agisse d'un simple accident. Quelques instants plus tard, le commissaire est donc au pied de l'immeuble, penché sur le cadavre qui ensanglante le trottoir.
Ce qui accroche l'oreille, eh bien d'abord c'est sa voix, légèrement éraillée à cause d'une laryngite chronique. Et puis, il y a la matière. En 1972, le fait divers est considéré avec mépris par les journalistes. C'est très nouveau qu'on raconte des histoires de faits divers. Et ce succès va avoir une conséquence inattendue qui va permettre à la maison Lagardère, propriétaire d'Europe numéro 1, de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, le numéro 1 mondial du livre. Voilà l'idée de départ. Et si on éditait des livres qui reprennent les histoires de Bellemare? Au début, les éditeurs sont frileux.
Oh, c'est absurde. Les gens connaissent les histoires pour les avoir écoutées à la radio. Alors pourquoi voudriez-vous qu'ils achètent un livre, hein?
Très drôle, parce que figurez-vous que le premier livre de Bellemare se vend à 250 000 exemplaires. Du coup, Jean-Luc Lagardère se dit « Et si je crée ma propre maison d'édition ?» Et là, il s'associe avec Hachette et crée les éditions numéro 1 pour éditer les livres de Pierre Bellemare. Et plus tard, Jean-Luc Lagardère rachètera Hachette et deviendra le numéro 1 mondial de l'édition, tout ça grâce à Pierre Bellemare. Et l'aventure dure comme ça pendant 14 ans, 14 ans de succès ininterrompu sur Europe numéro 1.
Histoire d'une heure ou d'une minute. Histoire d'une vie ou d'un instant. Histoire d'un peuple ou d'un homme. Histoire vraie.
Pierre Bellemare.
Ce 17 octobre 2001, le carabinier Angelotti fait sa ronde sur les quais de Civitavecchia, la grande ville industrielle non loin de Rome, lorsqu'il est alerté par des cris perçants. Il court dans cette direction et tombe nez à nez avec une femme de type chinois, plutôt corpulente, qui s'épuise à répéter « Mario, Mario !» Le carabinier Angelotti tente de la calmer. « Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Qui est ce Mario ?» Pour toute réponse, il reçoit une tirade en chinois, dite de manière précipitée, et dans laquelle le prénom Mario revient sans arrêt. « Encore une fois, calmez-vous. Et d'abord, qui êtes-vous? Montrez-moi vos papiers. » Mais la femme, loin de s'exécuter, continue de plus belle son monologue incompréhensible et se met cette fois à pleurer. En désespoir de cause, le carabinier se décide à la conduire au commissariat pour essayer de tirer au clair cet événement peu banal. Une Chinoise qui pleure en criant « Mario » dans les environs de Rome. Ce n'est effectivement pas banal.
Et puis en 1986, un nouveau patron arrive. Dans notre maison qui en a vu défiler des dizaines et des dizaines. Il s'appelle Franck Thénault et il veut rajeunir la station. Et donc, Eh bien, ils virent Bellemare, qui file illico, où ça ? À RTL. Et l'année d'après, RTL passe en audience, devant Europe numéro 1. Bellemare, à lui seul, pouvait faire le succès d'une station de radio. Il me reste à vous raconter une dernière anecdote sur la relation entre Pierre et notre maison. En 1976, Pierre est nommé directeur général adjoint d'Europe 1. Jusque-là, il n'a été qu'un saltimbanque et à côté un tout petit chef d'entreprise qui gère une petite société de production, Tessie Press, qui fabrique ses émissions de télé. Et là, d'un coup, il se retrouve à la tête d'un média puissant de 400 salariés. Il est obligé d'abandonner ses émissions et il doit gérer les égos des animateurs dans une radio qui, à l'époque, pour tout compliquer, appartient pour partie à l'État et pour partie à Lagardère. Et donc, des enjeux politiques et des enjeux financiers. Ça ne lui plaît pas du tout, du tout. Il tourne en rond dans son bureau, ça n'est pas son métier. Alors il va voir Jean-Luc Lagardère.
Je me suis trompé. Je ne suis absolument pas fait pour ce poste. Je veux arrêter. Pierre, enfin, restez au moins un an. Si vous démissionnez maintenant, nous allons nous couvrir de ridicule.
Alors il reste un an et pas un jour de plus. Il écrit « Je retrouvais ma liberté avec la joie d'un collégien qui quitte la pension où il a été enfermé pendant des mois. »
Europe 1.
Je vous ai raconté aujourd'hui quelques épisodes clés de la vie de Pierre Bellemare, tirés de son autobiographie publiée chez Flammarion, Ma vie au fil des jours, livre qu'il a co-écrit comme la plupart de ce qu'il a fait dans sa vie, ça n'est pas quelqu'un qui a écrit lui-même, livre qu'il a co-écrit avec Jérôme Ecker qui est avec moi. Alors Jérôme, premier point, la guerre. C'est toujours quelque chose de surprenant de s'apercevoir qu'un animateur de radio et de télévision a vraiment connu la guerre. Il n'était pas tout petit, il était adolescent pendant la guerre. Est-ce qu'il en parlait facilement? Ou est-ce que, comme beaucoup, c'est un chapitre qu'il préférait éluder de sa vie?
Il en parlait facilement, mais ce n'est pas du tout quelqu'un de nostalgique. Si bien qu'il en parlait un petit peu avec réticence, il voulait tout le temps plutôt parler du présent et de ses projets futurs. Oui. Et il fallait le ramener un peu sur le terrain de la guerre. Oui. Bah, pour lui, la guerre, ça a été marqué par un drame, c'est-à-dire la mort de sa grande sœur.
Alors, j'ai pas raconté ce
Christiane,
passage-là. Qui meurt de phtisie.
Qui meurt de phtisie à l'époque.
Donc, de tuberculose, en fait.
De tuberculose pulmonaire. À l'époque, il n'y avait pas de médicaments, pas d'antibiotiques. C'est venu avec l'arrivée des Américains à la libération. Donc, sa sœur, étant à 16 ans, est touchée par la maladie. Et malheureusement ne va jamais guérir, et donc ça sera le grand drame familial qui va sans doute entraîner la mort prématurée de sa mère,
qui elle-même va vivre une vraie dépression à la suite de la mort de sa fille,
une dépression qui va avoir des crises de sclérose en plaques, sans doute due à ce choc, etc. Et puis la deuxième chose qu'on peut dire sur la guerre, c'est que il y a une situation un petit peu paradoxale. Les parents Bellemare étaient fauchés, il y en avait beaucoup d'argent, son père vendait des livres précieux, mais enfin la famille avait beaucoup de mal à vivre correctement, et par le gré des successions, des filiations paternelles, ils vont se retrouver à passer une partie de la guerre dans le château de Pontécoulant, en Normandie, dans un bâtiment superbe, meublé avec des meubles de haute époque, etc. Donc, il y a une vie de châtelain apparemment extrêmement bourgeoise et même aristocratique.
Alors qu'en vérité, ils sont fauchés.
Alors qu'ils ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts.
Le scoutisme, est-ce qu'il considérait, Pierre, qu'il restait une trace du chef scout qu'il avait été dans sa vie professionnelle?
Oui, il était souvent brocardé par ses collaborateurs. Dans les couloirs, il y avait toujours un qui disait « Ah,
le scout,
le grand chef scout a décidé !» Donc,
il avait bien fait du coup de ne pas prendre de patronyme, hein, de ne pas être écureuil habile, parce qu'on l'aurait appelé comme ça toute sa carrière.
Oui, il détestait ce marquage comme ça, très jeune, où on mettait une étiquette sur les gens. Hein. Mais les valeurs scouts de générosité, de débrouillardise. C'est un peu les valeurs chrétiennes aussi de l'époque. Il était très attaché à ça.
Son début dans le métier, alors j'ai raconté que c'est son beau-frère qui le pistonne, il le dit avec beaucoup, beaucoup d'honnêteté, au point que d'ailleurs on se dit que s'il n'y avait pas eu ce Pierre Yégel qui épouse sa sœur, peut-être Bellemare n'aurait jamais fait ni télé ni radio.
Sans doute pas. La seule chose, c'est quand il a commencé comme technicien radio, bon, il faisait des collages, il montait des bandes magnétiques, etc. Et ce côté pratique l'amusait beaucoup, parce qu'il faisait les maquettes de bateaux, d'avions, enfin il était très manuel,
très méticuleux,
très bricoleur. Alors les montages radio l'amusaient beaucoup. Et il ne se voyait pas tellement passer de l'autre côté du micro.
Ouais.
Et même sa première femme, donc Micheline, aurait souhaité, enfin c'est Pierre qui me l'a dit, aurait souhaité qu'il reste technicien, avec une vie beaucoup plus tranquille, anonyme, etc. Elle n'a pas beaucoup apprécié ce changement de statut quand il a commencé à devenir vedette.
À devenir vedette, alors, c'est important de le dire, parce que ce sont des choses, évidemment, qu'aujourd'hui on réalise pas, mais c'était vedette à la radio. Il n'y avait pas de vedette à la télé dans les années 50, parce que les gens n'avaient pas la télé, et que donc, certes, il y avait des gens qui parlaient dans le poste, mais comme personne n'était devant le poste pour regarder, on n'était pas célèbre par la télé, quoi.
Non, pas du tout.
C'est la radio qui le rend vedette.
On n'était pas célèbre et pas payé non plus, parce que l'ORTF à l'époque, ou du moins la précurseur des...
La RTF.
Oui, considérait que c'était un honneur de faire de la télévision française et ne payait pas ses collaborateurs, ne payait pas les producteurs, ou personne n'était payé, ou quasiment pas, parce que ça suffisait. Déjà, on se montrait à quelques dizaines de milliers de personnes.
Ça suffisait.
Et ça suffisait.
Ça valait sa salaire. Est-ce qu'il avait de l'admiration pour les gens qui ont créé Europe numéro 1, qui sont en vérité des génies? Merlin était un génie. C'est d'ailleurs dans ce studio qui porte son nom que cette émission est présentée, le studio Merlin. Et Maurice Chiégel, qui dirigeait l'information, était un génie aussi. Il avait de l'admiration pour eux ou pas ?
Totalement, totalement, parce qu'il s'est rendu compte justement que cette station Europe 1 ouvrait la porte à la radio moderne. Alors la radio moderne, c'était l'audace, le dynamisme, il y avait les journalistes, on commençait, c'était les premiers à se servir d'un agra, c'est-à-dire...
Un magnétophone de reportage à bande.
Voilà, alors qu'avant, ils étaient obligés
de tirer un câble.
De travailler avec un camion, un câble, etc. Là, les reporters d'Europe, ce qui a fait leur réputation quelques années plus tard, en 68, étaient sur le coup, étaient sur toute l'information, sur les événements. Et puis, il y avait aussi le matraquage de radio. Hein, ça, c'était...
C'est-à-dire que quand on passait une chanson sur Europe numéro 1, on l'a passé combien de fois dans la journée ?
On l'a passé à peu près 5 ou 6 fois.
Ouais.
Si bien que ça a marqué les esprits, ça ancrait, ce qui a d'ailleurs été au début du succès de Dalida, par exemple.
Je veux qu'on s'arrête évidemment sur ce chapitre de la double vie. Est-ce que c'est lui qui a voulu en parler, ou est-ce que c'est vous qui lui avez suggéré d'en parler ?
Je crois que lui voulait aussi régler publiquement cette affaire. Alors, vous avez dit dans le corps de votre émission qu'effectivement il a culpabilisé, et je crois que ça a été un fardeau qu'il a porté pendant très très longtemps.
Le scout devait culpabiliser, le scout chrétien, parce que il était très chrétien. Le curé, c'était pas son truc, mais il avait gardé quand même le message.
Oui, c'était pas un chrétien pratiquant.
C'est pour ça que j'ai pas dit catholique.
Oui, vous avez raison. Mais par contre, pendant des dizaines d'années, il a dit la passion du Christ de Peggy, l'admirable poème lyrique et mystique de. Et il le disait, jusqu'à la fin de sa vie, tous les ans pour Pâques, il allait dans une cathédrale et il disait ce texte. Donc il était encore très imprégné quand même de cette pensée chrétienne.
Est-ce que Roselyne a été le grand amour de sa vie ? Oui.
Je pense, oui. Oui. Oui.
Micheline, il était trop jeune en fait, il l'épouse à 20 ans, il n'a aucune expérience de la vie, et elle non plus. C'est Roselyne, le vrai choix de l'homme mûr.
Oui.
Oui.
Oui, et Micheline, en dépit de toutes les qualités qu'elle avait, qui étaient nombreuses, ne s'est jamais très intéressée à la carrière de Pierre. Elle ne regardait pas ses émissions, par exemple, quand il en faisait à la télévision. Elle ne lui posait aucune question, elle ne voulait pas sortir. Bon, il y avait quand même une vie un peu mondaine. Pierre faisant partie de ce tout Paris des années 60 et 70. Micheline voulait avoir une vie beaucoup plus casanière. Donc il manquait cette complicité entre les deux. Que Pierre a retrouvé avec Roselyne.
Roselyne, évidemment, lui survit. Elle est là, accompagner sa carrière.
Elle est là, accompagner sa carrière, oui. Avec des conseils, avec de l'entre-gens, elle était présente, elle était à côté de lui, oui.
Alors, comment est-ce qu'il écrivait ses histoires? Ou plutôt, comment est-ce qu'il faisait écrire ses histoires? Parce qu'il n'écrivait pas lui-même, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc la seule source était la presse.
Oui.
Il fallait découper les journaux.
Donc c'était ça, il y avait des documentalistes qui allaient à la BN pour retrouver... Bibliothèque Nationale, pour retrouver d'anciennes histoires.
Pour les photocopier.
La presse, détective de l'époque de Kessel, dans les années 30, 40, etc. Et puis chacun, moi j'en ai écrit une partie... On avait notre propre documentation, on se renseignait, on puisait dans les archives et on écrivait donc une émission quotidienne
de 30 minutes.
De 30 minutes.
Ouais. Est-ce que il modifiait le texte ou est-ce qu'il conservait le texte que vous écriviez?
Oui, il m'a jamais bougé une virgule. Et je pense que c'était avec tout le monde pareil.
Ouais.
Il respectait les auteurs.
Mais... Ouais. Il ne voulait pas écrire lui-même. Il n'avait pas le temps, en vérité. Parce que ce qu'on sent quand même dans sa biographie, c'est qu'il avait une vie trépidante. Il avait ses sociétés de production. Il inventait des émissions de télé. Il n'avait pas le temps.
Oui. Il n'avait pas le temps et puis c'était pas sa priorité. Il adorait produire, trouver des idées, les mettre en pratique. Il adorait évidemment raconter des histoires, animer des émissions de jeux. Mais l'écriture, le travail solitaire et ça lui convenait pas. Il fallait qu'il vive en équipe, qu'il vive dans le siècle.
Est-ce qu'il était égotique? C'est une question qui est pas tranchée dans votre livre.
Pas tellement, non.
Finalement, non.
Hein. Non, non.
C'est ce que je subodorais. Mais
non.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Merci.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.